Chapitre 27.
Trois hommes forts aux prises.
Après avoir savouré le bonheur de sa paternité pendant quelques heures, Peyrade, les cheveux lavés et teints, sa poudre était un déguisement, vêtu d'une bonne grosse redingote de drap bleu boutonnée jusqu'au menton, couvert d'un manteau noir, chaussé de grosses bottes à fortes semelles et muni d'une carte particulière, marchait à pas lents le long de l'avenue Gabriel, où Contenson, déguisé en vieille marchande des quatre saisons, le rencontra devant les jardins de l'Élysée Bourbon. « Monsieur Saint-Germain, lui dit Contenson, en donnant à son ancien chef son nom de guerre, vous m'avez fait gagner 500 faces, francs, mais si je suis venu me poster là, c'est pour vous dire que le damné baron, avant de me les donner, est allé prendre des renseignements à la maison, la préfecture. » « J'aurai besoin de toi, sans doute, » répondit Peyrade. « Vois nos numéros 7, 10 et 21, nous pourrons employer ces hommes-là sans qu'on s'en aperçoive, ni à la police, ni à la préfecture. » Contenson alla se replacer auprès de la voiture où M. de Nucingen attendait Peyrade. « Je suis M. de Saint-Germain, » dit le méridional au baron en s'élevant jusqu'à la portière. « Eh bien, montez avec moi !» répondit le baron, qui donna l'ordre de marcher vers l'Arc de Triomphe de l'Étoile. « Vous êtes allé à la préfecture, monsieur le baron. Ce n'est pas bien. Peut-on savoir ce que vous avez dit à monsieur le préfet et ce qu'il vous a répondu ?» demanda Peyrade. « Afin de donner 500 francs à un drôle comme Gondanson, j'étais bien aise de savoir s'il s'est fait gagner. J'ai simplement dit au brevet de police que je souhaitais employer un achat, sinon de Peyrade à l'étranger, dans une mission délicate, et si je pouvais avoir en lui une confiance illimitée. Le prévêt m'a répondu que vous étiez un des plus apilhommes et des plus odèdes. C'est de toute la verre. Monsieur le baron veut-il me dire de quoi il s'agit, maintenant qu'on lui a révélé mon vrai nom ? Quand le baron eut expliqué longuement et verbeusement, dans son affreux patois de juif polonais, et sa rencontre avec Esther, et le cri du chasseur qui se trouvait derrière la voiture, et ses vains efforts, il conclut en racontant ce qui s'était passé la veille chez lui, le sourire échappé à Lucien de Rubempré, la croyance de Bianchon et de quelques dandys, relativement à une acquaintance entre l'inconnu et ce jeune homme. « Écoutez, monsieur le baron, vous me remettrez d'abord 10 000 francs à la compte sur les frais, car pour vous, dans cette affaire, il s'agit de vivre. Et comme votre vie est une manufacture d'affaires, il ne faut rien négliger pour vous trouver cette femme. Ah, vous êtes pincé !»«
Oui, je suis benzé. »«
S'il faut davantage, je vous le dirai, baron. Fiez-vous à moi, » reprit Peyrade. « Je ne suis pas, comme vous pouvez le croire, un espion. » J'étais, en 1807, commissaire général de police à Anvers, et maintenant que Louis XVIII est mort, je puis vous confier que pendant 7 ans, j'ai dirigé sa contre-police. On ne marchande donc pas avec moi. Vous comprenez bien, monsieur le baron, qu'on ne peut pas faire le devis des consciences à acheter avant d'avoir étudié une affaire. Soyez sans inquiétude, je réussirai. Ne croyez pas que vous me satisferez avec une somme quelconque. « Je veux autre chose pour récompense. »«
Pourvu que ce ne soit pas un royaume, » dit le baron.
« C'est moins que rien pour vous. »«
Ça me fa. »«
Vous connaissez les Keller ?»«
Pogou. »
François Keller est le gendre du comte de Gondreville, et le comte de Gondreville a dîné chez vous hier avec son gendre.
« Qui diable peut fut-il ? » s'écria le baron.
« Ce sera Georges qui pafarte toujours !» se dit en lui-même M. de Nucingen. Peyrade se mit à rire. Le banquier conçut alors d'étranges soupçons sur son domestique en remarquant ce sourire. Le comte de Gondreville est tout à fait en position de m'obtenir une place que je désire avoir à la préfecture de police et sur la création de laquelle le préfet aura, sous 48 heures, un mémoire, dit Peyrade en continuant. « Demandez la place pour moi, faites que le comte de Gondreville veuille se mêler de cette affaire en y mettant de la chaleur et vous reconnaîtrez ainsi le service que je vais vous rendre. Je ne veux de vous que votre parole, car si vous y manquiez, vous maudiriez tôt ou tard, le jour où vous êtes né, foi de Peyrade. »«
je fus tonne ma barole tonnerre de faire le possible. Si je ne faisais que le possible pour vous, ce ne serait pas assez. Eh bien, j'achirai franchement.
Franchement, voilà tout ce que je veux, dit Peyrade, et la franchise est le seul présent un peu neuf que nous puissions nous faire l'un et l'autre.
Franchement, répéta le baron, eût foulez-vu que je vis remède.
Au bout du pont Louis XVI.
Au bon de la chambre, dit le baron à son valet de pied qui vint à la portière.
Je fais donc à foire l'ingonie, se dit le baron en s'en allant.
Quelle bizarrerie, se disait Peyrade en retournant à pied au palais royal où il se proposait d'essayer de tripler les 10 000 francs pour faire une dot à Lydie. Me voilà obligé d'examiner les petites affaires du jeune homme dont un regard a ensorcelé ma fille. C'est sans doute un de ces hommes qui ont l'œil à femme, se dit-il en employant une des expressions du langage particulier qu'il avait fait à son usage et dans laquelle ses observations, celles de Corentin, se résumaient par des mots où la langue était souvent violée, mais par cela même énergiques et pittoresques. En rentrant chez lui, le baron de Nucingen ne se ressemblait pas à lui-même. Il étonna ses gens et sa femme, il leur montrait une face colorée, animée, il était gai.
« Gare à nos actionnaires !» dit Dutillet à Rastignac.
On prenait en ce moment le thé dans le petit salon de Delphine de Nucingen au retour de l'opéra.
« Oui, » reprit en souriant le baron qui saisit la plaisanterie de son compère.
« J'éprouve tant vie de verre tes avers. »
« Vous avez donc vu votre inconnu ?» demanda madame de Nucingen.
« Non, » répondait-il, « je n'ai que laisse boire de la trouffée. »
« Aime-t-on jamais sa femme ainsi ?» s'écria madame de Nucingen en ressentant un peu de jalousie ou feignant d'en avoir.
« Quand vous l'aurez tout à vous, » dit Dutillet au baron, « vous nous ferez souper avec elle, car je suis bien curieux d'examiner la créature qui a pu vous rendre aussi jeune que vous l'êtes. »
« C'est à une chef d'ivre de la création, » répondit le vieux banquier.
« Il va se faire attraper comme un mineur, » dit Rastignac à l'oreille de Delphine.
« Bah, il gagne bien assez d'argent pour... »«
Pour en rendre un peu, n'est-ce pas ?» dit Dutillet en interrompant la baronne.
Nucingen se promenait dans le salon comme si ses jambes le gênaient.
« Voilà le moment de lui faire payer vos nouvelles dettes, » dit Rastignac à l'oreille de la baronne.
En ce moment même, l'abbé, venu rue Taitbout pour faire ses dernières recommandations à Europe, qui devait jouer le principal rôle dans la comédie inventée pour tromper le baron de Nucingen, s'en allait plein d'espérance. Il fut accompagné jusqu'au boulevard par Lucien, assez inquiet de voir ce demi-démon si parfaitement déguisé que lui-même ne l'avait reconnu qu'à sa voix.
« Où diable as-tu trouvé une femme plus belle qu'Esther ? » demanda-t-il à son corrupteur.
« Mon petit, ça ne se trouve pas à Paris. Ces teints-là ne se fabriquent pas en France. »«
C'est-à-dire que tu m'en vois encore étourdi. La Vénus Callipyge n'est pas si bien faite. On se damnerait pour elle. Mais où l'as-tu prise ?»«
C'est la plus belle fille de Londres. Elle a tué son amant dans un accès de jalousie et ivre aussi de gin. L'amant est un misérable de qui la police de Londres est débarrassée et l'on a, pour quelque temps, envoyé cette créature à Paris afin de laisser oublier l'affaire. La drôlesse a été très bien élevée. C'est la fille d'un ministre, elle parle le français comme si c'était sa langue maternelle. Elle ne sait et ne pourra jamais savoir ce qu'elle fait là. On lui a dit que si elle te plaisait, elle pourrait te manger des millions, mais que tu étais jaloux comme un tigre et on lui a donné le programme de l'existence d'Esther. Elle ne connaît pas ton nom.
« Mais si Nucingen la préférait à Esther ?»«
Ah, t'y voilà venu !» s'écria l'abbé. « Tu as peur aujourd'hui de ne pas voir s'accomplir ce qui t'effrayait tant hier. Sois tranquille, cette fille est blonde, blanche et a les yeux bleus. Elle est le contraire de la belle juive et il n'y a que les yeux d'Esther qui puissent remuer un homme aussi pourri que Nucingen. Tu ne pouvais pas cacher un laideron, que diable ! Quand cette poupée aura joué son rôle, je l'enverrai sous la conduite d'une personne sûre, à Rome ou à Madrid, où elle fera des passions.
Puisque nous ne l'avons que pour peu de temps, dit Lucien, j'y retourne.
Va, mon fils, amuse-toi,
Demain, tu auras un jour de plus. Moi, j'attends quelqu'un que j'ai chargé de savoir ce qui se passe chez le baron de Nucingen. »
Qui ?
La maîtresse de son valet de chambre, car enfin faut-il savoir à tout moment ce qui se passe chez l'ennemi. À minuit, Paccard, le chasseur d'Estaing, trouva l'abbé sur le pont des Arts, l'endroit le plus favorable à Paris pour se dire deux mots qui ne doivent pas être entendus. Tout en causant, le chasseur regardait d'un côté pendant que l'abbé regardait de l'autre. « Le baron est allé ce matin à la préfecture de police de 4 à 5 heures, dit le chasseur. Et il s'est vanté ce soir de trouver la femme qu'il a vue au bois de Vincennes. On la lui a promise.
Nous serons observés, dit Jacques Collin. Mais par qui ?
On s'est déjà servi de Louchard, le garde du commerce.
Ce serait un enfantillage, répondit l'abbé. Nous n'avons que la brigade de sûreté, la police judiciaire à craindre. Et du moment où elle ne marche pas, nous pouvons marcher, nous.
Quel est l'ordre ? Dit Paccard de l'air respectueux que devait avoir un maréchal en venant prendre le mot d'ordre de Louis XVIII.
Vous sortirez tous les soirs à 10 heures, répondit le faux abbé. Vous irez bon train au bois de Vincennes, dans les bois de Meudon et de Ville d'Avray. Si quelqu'un vous observe ou vous suit, laisse-toi faire, sois liant, causant, corruptible. Tu parleras de la jalousie de Rubempré, qui est fou de madame et qui, surtout, ne veut pas qu'on sache dans le monde qu'il a une maîtresse de ce genre-là.
Suffit, faut-il s'armer ?
Jamais, dit Jacques vivement.
Une arme ? À quoi cela sert-il ?
À faire des malheurs.
Ne te sers dans aucun cas de ton couteau de chasseur. Quand on peut casser les jambes à l'homme le plus fort par le coup que je t'ai montré, quand on peut se battre avec 3 argousins armés avec la certitude d'en mettre 2 à terre avant qu'ils n'aient tiré leur briquet, que craint-on ? N'as-tu pas ta canne ?
C'est juste, dit le chasseur.
Paccard, qualifié de vieille garde, de fameux lapin, de bon là, homme à jarret de fer, à bras d'acier, à favoris italiens, à chevelure artiste, à barbe de sapeur, à figure blême et impassible comme celle de Contenson, gardait sa fougue en dedans et jouissait d'une tournure de tambour-major qui déroutait le soupçon. Un échappé de Poissy, de Melun, n'a pas cette fatuité sérieuse et cette croyance en son mérite. Giaffa, de l'Haroun Arrachid du bagne, il lui témoignait l'amicale admiration que Peyrade avait pour Corentin. Ce colosse, excessivement fendu, sans beaucoup de poitrine et sans trop de chair sur les os, allait sur 2 longues béquilles d'un pas grave. Jamais la droite ne se mouvait sans que l'œil droit examinât les circonstances extérieures avec cette rapidité placide particulière au voleur et à l'espion. L'œil gauche imitait l'œil droit. Un pas, un coup d'œil. Sec, agile, prêt à tout et à toute heure, sans une ennemie intime appelée la liqueur des braves, Paccard eût été complet, disait Jacques, tant il possédait à fond les talents indispensables à l'homme en guerre avec la société. Mais le maître avait réussi à convaincre l'esclave de faire la part au feu en ne buvant que le soir. En rentrant, Paccard absorbait l'or liquide que lui versait à petits coups une fille à grosse panse venue de Danzig.
« On ouvrira l'œil, » dit Paccard en remettant son magnifique chapeau à plumes après avoir salué celui qu'il nommait son confesseur.
Voilà par quels événements 2 hommes aussi forts que l'étaient, chacun dans leur sphère, Jacques Collin et Peyrade, arrivèrent à se trouver aux prises sur le même terrain et à déployer leur génie dans une lutte où chacun combattit pour sa passion ou pour ses intérêts. Ce fut un de ces combats ignorés mais terribles où ils se dépensent en talent, en haine, en irritation, en marches et contre-marches, en ruses, autant de puissance qu'il en faut pour établir une fortune.